Ah, je t'ai eu encore.
Rumble!
Yeah! J'ai réussi à faire chanter Big M, j'ai réussi à faire chanter.
Ça, t'as le doigt.
You already know.
Wu-Tang is forever.
Hey, Ben, tu peux faire remarquer quoi?
Ouais.
Dans le verse?
Ouais.
Quelque chose que j'avais jamais remarqué.
Ouais.
On va dire rapidement ce que l'autre émission en
banque. Il est 29-15 secondes.
On redira demain.
On en parlera la semaine prochaine.
Demain, on en parlera.
On vous aime tout le monde. Passez une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là.
Peace.
Bon match.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Le Festival international de musique actuelle de Victoriaville revient cette année avec deux concerts majeurs. Fire Orchestra CBA Victoriaville et Sleepy Time Gorilla Museum. Des courts-métrages du cinéaste nominé aux Oscars Bill Morrison, un parcours d'installation sonore qui vous offrira une expérience sensorielle hors du commun et beaucoup plus. Ne manquez pas la 41e édition du FIMAV du 12 au 18 mai 2025. Infos et billets sur fimav.qc.ca.
Hey, cet été, Chiz 94.3 va faire les festivals autour du monde!
Aïe, Kevin, il y a assez de bons festivals au Québec. Pas besoin d'aller loin. Cet été, l'équipe de Chiz 94.3 sera sur la route des festivals à travers le Québec afin de vous dénicher les meilleurs spectacles. Tadoussac, Baie-Saint-Paul, Québec, Val-d'Or, en veux-tu du bon spectacle? Enveloppe!
Pour ne rien manquer, visitez le chiz.ca et synthonisez le 94.3 tout le temps.
Salut, c'est Noémie, votre animatrice de Chérie, j'arrive! Chaque dernier vendredi du mois, retrouvez-moi pour Chiz au pub, une émission spéciale devant public, en direct du pub universitaire, pour en connaître davantage sur les projets et initiatives culturelles de votre campus. Entrevues, performances live, concours et plus encore. Chiz au pub, tous les derniers vendredis du mois de 16h à 17h30 sur les planches du Pub U et sur les ondes de Chiz 94.3.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joint. Tiens, joint, prends les clés.
Et tu fous, je suis bien trop stone. Hey, bière!
Ah non, une fois que je prenne pof, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois pofs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Ma belle jeunesse est partie avec un morceau de moi. Ma patience, ma souplesse et ma joie. Sans annonce, sans dire adieu, c'était juste comme ça. Comme une peine d'amour qui s'arrache de tes bras. Je vais prendre un verre, me donner de la misère pour changer. Il faut que je calme ma mère, faire mes prières pour changer le mal de place. Cette dernière nuit a tout pris ce que
bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes en compagnie de l'animatrice Amy Bois. Et ce soir, nous recevons l'historien Jérémy Lévesque-Saint-Louis. Bonsoir, Jérémy. Merci d'être des nôtres.
Merci, bonsoir, merci à vous pour l'invitation.
Oui, ça nous fait très, très plaisir. Ce soir, on va parler d'un ouvrage très intéressant, en l'occurrence le tien. Et donc, vraiment, c'est un plaisir de te recevoir ce soir. Chers auditeurs et auditrices, ce soir, il s'agit de ma dernière émission à la barre de 3600. Après un peu plus de 6 ans d'implication, il est temps pour moi de tirer ma révérence, mais n'ayez crainte, je reste proche et j'interviendrai avec plaisir dans les émissions collectives que pourraient organiser mes collègues. D'ailleurs, j'en profite pour leur souhaiter une belle continuation, une bonne continuation et surtout une longue vie à 3600 secondes d'histoire. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre invité de ce soir. Donc, Jérémy Lévesque-Saint-Louis est doctorant en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux portent sur l'histoire impériale et coloniale canadienne et plus précisément sur les phénomènes d'aménagement, d'exploitation et de contrôle du territoire, donc des phénomènes impulsés par les empires européens. Dans le cadre de son mémoire de maîtrise, Jérémy a travaillé sur l'arpenteur général Joseph Bouchette, une figure méconnue de l'histoire québécoise du 19e siècle, et son étude a donné lieu à une parution aux presses de l'Université Laval en 2023 intitulée « Retracer le territoire, tracer le pays, l'arpenteur général Joseph Bouchette 1791-1840 », donc sujet de l'émission de ce soir. Alors Jérémy, question peut-être plus personnelle pour lancer le bal, d'où te vient ton intérêt pour l'histoire?
Je crois d'abord que c'est un désir de vouloir comprendre le monde dans lequel on vit, aussi une fascination pour les choses anciennes, les choses, les objets qui ont traversé les siècles, les générations. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par les châteaux, l'histoire médiévale. Mes parents m'amenaient aux fêtes de la Nouvelle-France à Québec et ado, je crois aussi que le fantasy, Seigneur des Anneaux par exemple, joue un rôle là, dans cet intérêt-là que j'ai depuis aussi loin que je me souviens.
Ah, c'est intéressant ça, une forme de médiévalisme qui t'a attiré vers l'histoire. Pour ma part, moi aussi, c'est un peu ça. Donc, c'est intéressant de t'entendre là-dessus. C'est un peu rare quand même que les gens mentionnent le fantasy. Et habituellement, c'est plus relié à des gens dans leur entourage ou des professeurs. Donc, intéressant. Je pense qu'il y a quand même une étude, là, peut-être qu'il en existe déjà, mais à faire là-dessus sur les historiens les qui sont devenus historiens parce qu'ils ont été attirés par le genre littéraire là, se rattachant à la fantasy ou autre, là, mais je pense que ouais, ça serait intéressant de lire là-dessus. Alors maintenant, intéressons-nous plutôt à ton étude à toi. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, en 2023, tu as fait paraître un ouvrage auprès de l'Université Laval qui se base sur les recherches que tu as menées dans ta maîtrise. Avant de parler de l'ouvrage en tant que tel, pourrais-tu nous parler un peu de ton choix de maîtrise? C'est un peu inusité là, de vouloir faire un travail, disons, un peu biographique, mais c'est pas vraiment ça que tu as fait non plus. Tu as quand même élargi ton angle d'approche, mais c'est assez inusité finalement de choisir ce personnage-là. Peux-tu nous en parler?
Oui, en fait, ça vient d'abord, c'est pas le personnage, c'est plutôt le territoire qui a été le premier intérêt. En fait, ça vient peut-être du fait que j'ai grandi dans le bas du fleuve où on a des paysages grandiose, disons, où on a le fleuve qui se mélange aussi à la mer, à l'agriculture, etc. Et donc, pour la maîtrise, j'avais envie de travailler sur l'adaptation des humains au territoire, lorsqu'il y a aujourd'hui le Québec, le Canada plus largement, l'aménagement du territoire, l'exploitation du territoire, et plus largement le rapport de l'État avec l'espace, le territoire. Mais ces questions-là, c'est évidemment très large, ça permet de couvrir une tonne de sujets. Il fallait que je précise pour entamer mon enquête, ma recherche à la maîtrise. Et c'est mon professeur de l'époque, le professeur Danny Fougère, qui m'a proposé, en fait, l'idée d'étudier un cas, un personnage qui permettrait d'ouvrir une fenêtre là, sur l'aménagement, l'exploitation, la gestion du territoire. Et donc, ce personnage-là, c'était Joseph Bouchette, qui était, comme tu as dit, arpenteur général.
Oui, puis c'est un personnage qu'on étudie, mais en fait, on étudie plutôt ses œuvres lors de notre parcours habituellement au baccalauréat, quand on s'intéresse justement au territoire, justement, à ses rapports avec l'État, à la cartographie. Donc, on va s'intéresser aux œuvres de Joseph Bouchette. Et donc, on touche à ce personnage-là par l'entremise de ses œuvres qui sont quand même fondamentales pour comprendre le 19e siècle. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Peut-être maintenant, il est venu le temps d'introduire ce personnage dont on va parler tout au long de l'entrevue. Donc, dans les grandes lignes, est-ce que tu pourrais nous dire qui il est et pourquoi est-ce qu'il est important pour l'histoire du Québec?
Oui, d'abord, on l'a dit, c'est l'arpenteur général. Et donc, il est né à Québec en 1774. Il va décéder à Montréal en 1841. Il va commencer à travailler pour le Bureau de l'Arpenteur général dans les années fin 1780, mais certainement 1790. Et il va avoir une petite parenthèse là, dans son travail d'arpenteur et de géographe parce qu'il va travailler pour la marine provinciale sur le lac Ontario, dans la région de la ville de Toronto actuelle. Mais il va revenir là, à la fin des années 1790, travailler pour le Bureau de l'Arpenteur général. Et il va faire ça jusqu'à 1840, là, en fait. Il va prendre sa retraite et il va décéder peu de temps après. Là. Donc, c'est une carrière de vraiment plus de 40 ans à faire ce métier-là. Et donc, pour l'époque, c'est quand même là, vraiment, ben, même pour aujourd'hui, si on veut,
ouais,
c'est une carrière considérable et lors de laquelle il a fait une tonne de plans, de cartes, de description, là, on va en parler ce soir, évidemment. Mais donc, vraiment, là, une œuvre vaste et riche là, qu'il a produit tout au long de ces 40 années-là et plus.
Mmh. Et donc,
pardon. Et comme tu disais, donc, on le connaît notamment par ces cartes hein, qui sont utilisées dans des ouvrages, par exemple, qui vont traiter l'histoire du territoire. Un historien géographe qui s'appelle Serge Courville, par exemple, qui va utiliser ce qui a produit Bouchette pour mieux comprendre l'état du territoire, son aménagement, son développement. Et c'est ce qui l'a rendu populaire, en fait. C'est la création de cartes vraiment pour l'époque là, précises, évidemment qui ont des erreurs, qui ne sont pas au niveau de précision qu'on va avoir aujourd'hui, bien sûr, mais qui, à l'époque, étaient réellement là, un exploit scientifique, si on veut, dans son domaine. Et c'est aussi l'ampleur de la chose, c'est-à-dire que cartographier là, tout le territoire, là, particulièrement du Bas-Canada, qui est le Québec actuel, mais il a vraiment cartographié en détail. Et donc, ça a été là, quelqu'un qui a été utile pour les autorités britanniques là, pendant ces longues décennies-là.
Oui. Donc, une somme d'informations là, considérable, à la fois pour l'époque, mais aussi pour les historiens d'aujourd'hui. Et le titre de ton ouvrage est, donc, on l'a mentionné en introduction, « Retracer le territoire, tracer le pays ». Qu'est-ce que tu voulais évoquer avec ce titre-là?
Oui, alors, le territoire, il change, évidemment, notamment au gré de l'exploitation humaine. Mais le territoire, lui, il reste, peu importe, quelle couronne le contrôle, quel État le contrôle, le territoire, il reste, et on le redessine constamment au fil des décennies, alors que le pays, lui, on le crée sur des cartes, et en le créant, ben, on doit évidemment le tracer ses frontières, tracer ses divisions administratives, tracer les ressources, etc. Donc, c'est ce que ça évoque, ce titre.
Ben, c'est gagnant comme titre. Alors maintenant, avant de débuter notre plongée plus sérieusement dans ton ouvrage « Retracer le territoire, tracer le pays », écoutons notre première pièce musicale de la soirée. Donc ce soir, toutes nos pièces musicales seront tirées du dossier « La trame sonore du Québec » réalisé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Dans de courtes vidéos, l'équipe de la BNQ vous convie à la découverte de la petite histoire de plusieurs grandes chansons qui font partie de l'ADN du Québec. Alors je vous invite à aller sur leur site internet pour découvrir ce dossier. Maintenant, écoutons la pièce « Heureux d'un printemps » de Paul Piché. Et bien sûr, ça fait un lien avec la belle température d'aujourd'hui. Alors, bonne écoute!
Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement. Ça me fait de la peine, on vit rien qu'au printemps. Printemps dure pas longtemps. Avrai d'adi, vradi, de l'homme. Hop de la de l'homme, adi de l'homme. Avrai d'adi, vradi, de l'homme. Hop de la de l'homme, adi de l'homme. Assis sur le banc de mon tour rouge, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Avradidadi, vradi, de l'homme. Hop de la de l'homme, arrête de l'homme. Avradidadi, ah.
L'été, c'est tellement bon quand t'as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter. Pour le fils d'un patron, c'est les vacances. Pour la fille du restaurant, c'est les sueurs puis les clients.
Vous êtes de retour à l'émission 3600 secondes d'histoire, diffusée sur les ondes de Chiz 94.3 en compagnie de l'animatrice Amy Bois et de l'invité Jérémy Lévesque Saint-Louis. Alors, Jérémy, ton ouvrage porte sur, et là je cite, donc je te cite à la page 2, la première entreprise majeure de reconnaissance territoriale britannique au 19e siècle canadien, alors que Joseph Bouchette, qui est au service du pouvoir colonial, s'affaire à reconnaître et à cartographier la colonie. Donc en 1801, Joseph Bouchette va succéder à son oncle, Samuel Johannes Holland, à titre d'arpenteur général du Bas-Canada, un poste, comme on l'a dit, qu'il va occuper jusqu'en 1840. D'une part, comment les origines familiales de Bouchette ont-elles favorisé son accession au savoir technique de l'arpentage? Et ensuite, j'aurai une autre question pour toi, justement, par rapport à son oncle et à sa fonction d'arpenteur.
Oui. Bon, alors, son oncle, c'est un oncle par alliance. Et si je ne m'abuse, à vérifier, mais il me semble qu'il marie l'une des sœurs de sa mère. Et donc, son oncle, lui, va arriver au Bas-Canada. À l'époque, c'est le Canada, tout simplement, mais en fait, pendant la conquête britannique là, de la Nouvelle-France, et ce fameux Holland va notamment là, faire des relevés hydrographiques du fleuve là, pendant que la flotte d'invasion remonte vers Québec. Et donc, après la conquête, Holland va rester dans la nouvelle colonie britannique et il va faire là, des cartes de la région, notamment aussi, pas simplement de ce qui deviendra le Québec, là, mais aussi du lac Ontario, etc. Et il va occuper ce poste-là pendant assez longtemps quand même. Et certainement, donc, et là, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de source là, qui lit ça directement, donc textuellement.
Okay.
Mais c'est certain que pendant ces années-là, ce travail de cet oncle va influencer Bouchette parce que Holland va lui donner une formation directe, on ne le sait pas, mais comme Bouchette travaille très tôt là, pour le bureau et on dit qu'il travaille pour son oncle, donc on peut assumer là, que ce personnage-là, donc cet arpenteur général avant Bouchette, va lui donner effectivement une formation pratique. Bouchette va notamment faire des copies de cartes et de plans là, au bureau de l'arpenteur général. Donc, ce lien-là, certainement, a pu mettre la carrière de Bouchette sur les rails, si on veut. Donc, c'est certain que ça a favorisé là, ce qui va suivre pour lui dans sa vie.
Oui. Et si je ne me trompe pas, il avait quand même fait des études... Ah non, c'est une note qui n'apparaît pas sur la liste des étudiants de séminaire de Québec. Alors, donc, est-ce qu'on sait... j'ai comme un blanc par rapport à cette information-là, mais est-ce qu'il a fait des études, finalement, Joseph Bouchette, dans le domaine de l'arpentage?
Exactement. On n'a pas de traces écrites. Là. Il faudrait retourner en archive, là, plonger davantage là, dans certains fonds qu'on conserve ici. Peut-être qu'on pourrait trouver des éclairements par rapport à ça. Mais on n'a pas là, il apparaît pas exactement sur la liste séminaire de Québec. Alors, séminaire de Québec, là, il donne des cours de trigonométrie, de géométrie, d'hydrographie, etc., etc. Donc, ça prend des mathématiques pour faire le travail de Bouchette. Et c'est, on ne va pas apparaître sur ces listes-là. Cela dit, à l'époque, quand même, c'est pas rare que des familles qui ont un peu plus de sous paient des instructeurs privés qui vont venir éduquer leurs enfants.
Oui.
Donc, peut-être que Bouchette a bénéficié d'une éducation à la maison. On sait aussi que sa mère était éduquée, elle était lettrée et tout. Donc, c'est peut-être sa mère, par exemple, qui lui a enseigné l'écriture, la lecture, etc. Et comme je disais il y a quelques instants, évidemment, Holland, en étant son oncle, et que Joseph se met à travailler pour le bureau de l'arpenteur général,
oui.
C'est difficile de douter qu'il n'y aurait pas eu une formation quelconque là, à ce moment-là.
Oui, OK.
Mais,
on est dans l'hypothèse, mais c'est quand même très plausible.
C'est ça. Et en fait, ce qui confirme ces choses-là d'une certaine façon, c'est que, ben, premièrement, Bouchette est très éduqué. Là. Il écrit, il lit et il parle anglais et français. Il écrit bien et il est très agile en dessin également. Et il est capable de faire des calculs, toutes sortes de calculs pour son métier de géographe et d'arpenteur. Là. Donc, certainement, là, il n'a pas appris ça sur le tas, comme ça. Et à un moment ou à un autre, il y a eu des gens qui l'ont formé.
Oui. Et des études à l'étranger, est-ce que ça pourrait être une des options qu'on devrait fouiller?
Il est déjà reporter général depuis un certain moment qu'il va faire des voyages en Europe. En Europe, on sait qu'il va travailler des imprimeurs, il va visiter aussi, il va aller en Italie, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des formations à ce moment-là? Peut-être qu'il a raffiné ses techniques en discutant avec des gens dans son domaine ou en préparant là, les épreuves pour imprimer ses cartes et ses livres. Mais on n'a pas non plus là, une trace où il aurait dit, par exemple, j'ai été travailler avec tel géographe britannique qui m'a...
il m'a initié.
Exact, non. Puis déjà, sa carrière a déjà bien entamée quand il fait ça, donc je crois pas, là. Mais par contre, on sait qu'il a travaillé avec quelqu'un qui faisait du dessin topographique, un Britannique qui était venu aussi. Il y a beaucoup de Britanniques qui viennent dans la colonie après la conquête, évidemment. Et il y en a beaucoup qui apportent là, leur savoir, si on veut. Oui. Donc, il y a des dessinateurs qui font du dessin topographique, là, qui est un genre de dessin réaliste pour représenter le territoire. On a comme Harlan, notamment, qui est un géographe, hydrographe et tout ça. Et donc, ces gens-là amènent, comme je disais, ce savoir-là. Et Bouchette va s'en abreuver.
Oui.
C'est
et donc, revenons à cet oncle par alliance, Samuel Holland, qui occupait le poste avant Joseph Bouchette. Mais bon, est-ce qu'on peut penser que sa nomination en tant qu'arpenteur général a été causée par un favoritisme de son oncle? Ou là, je sais déjà la réponse, mais éclaire nos auditeurs et auditrices.
C'est le réflexe qu'on aurait en sachant bon, que son oncle, c'est Holland et qu'il est arpenteur général. Mais en fait, Holland, à la fin de sa carrière, il voulait plutôt que ce soit son propre fils qui lui succède, là, qui avait commencé à former et tout. Et donc, il va pas prôner, mettre de l'avant la candidature de Bouchette. C'est plutôt le lieutenant-gouverneur qui s'appelle Robert Shore Mildness qui est un ami de Bouchette. Et il faut savoir que Bouchette est comme connecté avec les autorités britanniques, là, on pourra y revenir.
Oui.
Mais ce lieutenant-gouverneur-là est lié d'amitié à Bouchette, donc et il va vraiment là, prôner sa candidature. Et c'est même lui là, qui va signer sa commission d'arpenteur général. Et même, bon, quelque chose qui montre bien ce lien-là entre les deux hommes, là, entre Bouchette et Mildness, c'est que Bouchette, l'un de ses fils, il va lui donner le nom de Robert Shore Mildness, littéralement, junior.
Oui.
Là. Ouais, carrément. Donc, et puis ça va même être le parrain de ce fils-là. Donc là, un lien d'amitié là, qui va au-delà du professionnalisme.
Ah oui, ça c'est sûr. Pour donner le même nom à son enfant, c'est sûr. Alors, peut-être pour donner des informations de contexte à nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du contexte colonial et impérial dans lequel Bouchette va entreprendre ses travaux en tant qu'arpenteur général du Bas-Canada? Et donc, en fait, pourquoi l'État commande-t-il des travaux d'arpentage et de cartographie à des arpenteurs?
Mm-hmm. Bon, il faut savoir, quand Bouchette est né en 1774, la conquête était relativement fraîche encore, hein, la conquête du Canada, et on signait l'acte de Québec de 1774. Et donc, c'était une période où il y avait beaucoup de chamboulements. C'était assez instable. Après la conquête, on avait eu le gouvernement militaire, notamment. Et notamment en raison de l'acte de Québec de 1774, mais ça, c'est un autre sujet. Et on connaît bien que les 13 colonies hein, qui vont devenir les États-Unis ont de plus en plus de problèmes avec la couronne britannique, mm-hmm. avec le fait d'appartenir ou d'être soumis à l'Empire britannique. Ils vont éventuellement se soulever pour une foule de raisons. Et après là, plusieurs années de guerre assez sanglante, éventuellement, l'Empire britannique va être amputé des 13 colonies qui vont devenir les États-Unis d'Amérique. Et donc, à ce moment-là, ce qui est le Canada actuel, surtout ce qui est le Québec et l'Ontario, disons, va devenir la plus importante possession britannique en Amérique du Nord. Et donc, Québec, par exemple, va devenir le port le plus important pour les Britanniques, alors qu'avant, il y avait Boston et autres. Là, c'est Québec qui va être vraiment là, un port impérial pour les Britanniques qui permet de pénétrer à l'intérieur du continent. Et pourquoi on veut pénétrer à l'intérieur du continent? Bien, évidemment, c'est exploiter des ressources naturelles. Ressources naturelles, bon, à l'époque, les fourrures, c'est encore un peu important, mais tranquillement, on est en train de se tourner surtout vers les activités forestières, là, donc la coupe de bois. La marine britannique est gigantesque, la marine de guerre, mais aussi la marine marchande. Ça prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de bois pour construire et entretenir les bateaux. Et donc, les essences de bois qui sont utiles à la marine, par exemple, vont être vraiment ciblées par les autorités pour qu'on les exploite et qu'on les décolonise, qu'on les exporte vers la Grande-Bretagne. Et donc, on veut aussi stimuler l'agriculture pour que les excédents puissent être, eux aussi, redirigés vers le marché impérial britannique, qui est un gigantesque marché, évidemment. Et au-delà de cette volonté de vouloir exploiter plus de ressources, d'augmenter le commerce de façon générale, on veut aussi augmenter la population qui est... idéalement, parce que c'est pas que ça, mais idéalement, on veut augmenter la population qui est anglophone et protestante dans les territoires qui restent à l'Empire après la perte des États-Unis. Donc, on appelle ça les territoires de l'Amérique du Nord britannique. Donc, on veut augmenter, si on veut, par ce fait même-là, l'influence de la couronne britannique sur le territoire, parce qu'on se dit... Si on implante des populations qui sont protestantes et anglophones, elles vont nous rester plus fidèles et on va pouvoir plus facilement étendre notre contrôle de ces parties de l'Amérique qui nous restent. Mm-hmm.
Alors, plein de considérations là, à la fois politiques, économiques et même, disons, ethniques ou socioculturelles qui font partie des raisons pour lesquelles l'État commande des cartes, des plans, des relevés topographiques du territoire.
Exact.
Et un peu, bon, à la blague, mais ça fait quand même un lien avec cette volonté ce discours sur les frontières canadiennes récemment, là, l'actualité. Alors, j'imagine que tu as vu quand même certains parallèles, finalement, à faire avec ce traçage du territoire fait au 19e siècle et le discours qu'on entend en ce moment sur les États-Unis et le Canada. Alors voilà. La couronne britannique, qui veut réaffirmer en fait son pouvoir sur le territoire du Bas-Canada à ce moment-là. Et donc, dans ton œuvre, tu montres que Bouchette éprouve un profond attachement pour cette couronne britannique pour laquelle il travaille, bien sûr. Mais comment cet attachement est-il perceptible dans les œuvres de Bouchette?
Oui, alors bien, très simplement, ces travaux vont être faits au nom de la couronne, au nom du monarque, par exemple, George III au 19e siècle. Bouchette va faire des préfaces dans lesquelles il rend vraiment hommage à la couronne britannique. Alors, c'est pas unique. Les gens qui travaillent pour la couronne font souvent ça, et c'est pas une pratique non plus qui vient seulement du 19e siècle. On faisait ça au 18e, au 17e siècle. C'est une longue tradition là de proclamer, si on veut, sa loyauté et la bonté de son monarque, là, qui, d'une certaine façon, commande ses travaux-là. Et donc, Bouchette, c'est ça, il va rendre ces hommages-là. Il va mettre toutes sortes de symboles de la couronne britannique dans ses œuvres. Mm-hmm. Par exemple, quand on va avoir quand on va représenter les points cardinaux, ben, sur le nord, on va mettre la couronne. Il va mettre les blasons de certains membres de la noblesse britannique. Il va vanter largement. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, la couronne britannique, c'est une... Je parle pas de la couronne britannique, mais l'État britannique, si on veut, c'est une monarchie constitutionnelle. Mm-hmm. Et ça, Bouchette va vraiment le mettre beaucoup de l'avant. Il va souvent mentionner là, la protection qu'offre la Constitution britannique. Bon, de notre point de vue aujourd'hui, c'est loin d'être très équitable par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui par rapport aux constitutions qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que par rapport à certains autres régimes, c'est moins... c'est peut-être moins dominant, on pourrait dire. Mm-hmm. Mais bon, on pourrait en parler aux Acadiens qui se sont fait...
Oui, c'est ça. C'est relatif, ouais. Finalement. Ouais.
C'est définitivement très relatif, mais n'empêche, il y a quand même il y a l'habeas corpus, par exemple, qui fait qu'on doit se faire... qu'on doit passer devant un juge, qu'on ne peut pas être seulement arrêté et mis dans un cachot. Donc ça, Bouchette va vraiment beaucoup le mettre de l'avant. Lui, en fait, Bouchette, il critique les autorités britanniques parce qu'il trouve qu'ils font pas assez de protectionnisme par rapport au commerce, par exemple. Ils font pas assez de protectionnisme pour supporter les colonies comme que sont le Bas-Canada et le Haut-Canada. Lui, il trouve que c'est pas suffisant, qu'il faut davantage encourager le commerce colonial et davantage développer là, en termes d'infrastructures, notamment, les colonies. Donc, c'est vraiment comme un impérialiste, lui. Il est très hostile aux États-Unis. Mm-hmm. Et notamment, il va y avoir la guerre de 1812-1814, là, où les forces de la jeune République tentent de prendre le Canada là, dans le cadre d'un conflit contre la Grande-Bretagne. Et donc, Boucher, lui, vraiment, n'est pas un républicain du tout. C'est vraiment quelqu'un qui prône l'Empire. Et de toutes sortes de façons, là, il va dire à quel point cet univers britannique est plus efficace, et plus moderne, et plus équitable, etc., etc., là.
Alors, c'est le temps d'une petite pause publicitaire, mais avant, on va écouter notre seconde pièce musicale de la soirée, donc tirée toujours de la Trame sonore du Québec, un dossier qui est réalisé par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On écoute donc « Mille après mille » interprété par Willy Lamotte dans votre radio, maintenant à Chiz 94.3.
Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comment je t'ai aimé. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me tend.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Tous les vendredis à 13h30 sur Chiz 94,3 FM.
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier, comme on dit, accompagnement droit étudiant, les retraits de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier à commercial allier.ulaval.ca.
Grosse session. As-tu passé prendre du temps pour toi? Nous, oui. Mon équilibre t'offre des espaces détente partout sur le campus. On a aussi un calendrier d'activités pour que tu puisses prendre une pause. Ton bien-être fait partie de ta réussite. Mets-le à ton agenda avec mon équilibre.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire.
Vous êtes de retour à l'émission 3600 secondes d'histoire, diffusée sur les ondes de Chiz 94.3 en compagnie de Amy Bois et Jérémy Lévesque-Saint-Louis. Nous discutons de son récent ouvrage publié aux presses de l'Université Laval sur l'arpenteur général Joseph Bouchette. Maintenant, nous allons, dans cette deuxième partie d'émission, chercher à en apprendre davantage sur le rôle de Bouchette en tant qu'agent de la couronne britannique pour l'appropriation et l'exploitation du territoire. Alors, Jérémy, Joseph Bouchette doit répondre directement ou indirectement à ce que tu as qualifié dans ton ouvrage de commande impériale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une commande impériale?
Oui, la commande impériale, bon, ce n'est pas dit textuellement comme ça dans les sources. Essentiellement, c'est un ensemble de documents qui vont expliciter les objectifs de développement, entre autres, d'exploitation du territoire, etc., que j'ai mentionné quelques fois déjà, de la couronne par rapport à sa colonie là, canadienne. Et donc, bon, premièrement, petite parenthèse avant d'aller plus loin,
oui.
Commande impériale, hein, c'est parce que Joseph est un agent de l'Empire. Et donc, lui, il a un contrat, si on veut, octroyé par les autorités impériales. J'avais parlé du lieutenant-gouverneur là, qui signe sa commission. Donc, sa commission, c'est son contrat, son mandat, finalement, d'arpenteur général. Et donc, le premier élément de ce que je veux dire sur ça, c'est que Bouchette est un bureaucrate là, qui fait partie de cette administration impériale qui a un volet colonial au Canada, mais qui a aussi un volet, bon, qu'on pourrait dire impérial, là, dans la métropole à Londres. Donc, Bouchette fait partie de ce grand mécanisme-là. Mm-hmm. Et cette commande impériale, on la retrouve en partie déjà dans l'acte constitutionnel de 1791. Et donc, cet acte-là est important parce que c'est à ce moment-là, et je l'ai évoqué rapidement déjà, c'est à ce moment-là qu'on va diviser ce qu'on appelait alors la Province of Québec, depuis l'acte de Québec de 1774. On va la diviser en deux. Donc, une partie qui va devenir le Bas-Canada, le Québec actuel essentiellement, et une partie qui va devenir le Haut-Canada, donc l'Ontario actuel. Et on va diviser ces deux espaces-là parce que, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un grand sujet ça aussi, mais essentiellement, on veut laisser la zone qui est surtout occupée le long du fleuve Saint-Laurent et de ses principaux affluents aux francophones, hein, qui sont largement majoritaires à l'époque dans cet espace-là. Et on veut ouvrir la zone Ontario, disons, comme je disais tantôt, des populations qu'on veut idéalement anglophones et protestantes. Donc, les francophones catholiques ne sont pas interdits d'aller s'installer ailleurs, mais les autorités veulent vraiment favoriser le développement de cette façon-là. Et donc, dans l'acte de 1791, bon, on va expliquer comment on veut diviser la Province of Québec, on explique comment les frontières vont être retravaillées, et d'ailleurs, Bouchette va participer là, à dessiner ces nouvelles frontières-là et ensuite à les représenter sur des cartes. Et donc, toute frontière est artificielle, hein, pour revenir sur la parenthèse de notre voisin du Sud. Et donc, en outre, dans cet acte de 1791, on va aussi, on va vraiment là, expliciter quel est le rôle de l'arpenteur général par rapport au développement du territoire, donc à l'expansion de l'écoutement, c'est-à-dire la zone habitée. On va dire, on veut que notre arpenteur général soit responsable de, essentiellement, je paraphrase, mais de diviser les territoires qui nous intéressent pour en faire des lots et les octroyer à des colons. On veut que l'arpenteur général s'assure que les mesures, que les modèles qu'on impose sur le territoire, parce qu'il y a des modèles, le canton notamment, parce qu'on a les seigneuries le long du fleuve Saint-Laurent qui datent du régime français, et là, les Britanniques, eux veulent apposer les cantons. Et donc, on dit dans cet acte constitutionnel-là que c'est le travail de l'arpenteur général de s'assurer que tout ça est fait de la bonne façon. En outre, les autorités à Londres vont aussi transmettre des instructions au gouverneur qui va être au Canada. Et ce gouverneur-là, lui-même, va déléguer les choses qui concernent la cartographie du territoire et, encore une fois, là, le fait de cibler des espaces, de les mesurer, de les diviser pour les donner à des colons qui vont les exploiter, les mettre en friche et tout. Et donc, le gouverneur va passer ses ordres, si on veut, à Joseph Bouchette.
OK.
Donc, c'est cette transmission-là d'un acte constitutionnel à aussi des instructions là, qu'on envoie quand même assez fréquemment au fil des ans dans la colonie. On retrouve aussi l'acte constitutionnel, ça crée aussi les premières chambres d'assemblée.
Oui.
Et donc, chambre d'assemblée, donc on va avoir des lois qui vont être votées ici dans la colonie, au Bas-Canada. Et il va y avoir des règlements, des lois, des actes qui vont être adoptés par rapport à la pratique de l'arpentage. Et là aussi, on va déterminer comment que ça doit fonctionner, les règles finalement du jeu de l'arpentage. Et c'est Bouchette, en tant qu'arpenteur général, là, qui est tenu de s'assurer que ça soit fait de la bonne façon, en respectant les règles qui sont déterminées. Donc, de Londres jusque dans la colonie, on a une transmission de différentes instructions, si on veut. Et c'est sûr qu'à Londres, on ne va pas dire où exactement on veut qu'on ouvre une nouvelle route au Bas-Canada. Ça va être dans la colonie, en suivant les consignes générales de Londres, qu'on va déterminer, grâce au savoir de Joseph Bouchette notamment, comment l'on développe plus concrètement les infrastructures et l'expansion de la colonisation.
Et donc une transmission de Londres jusqu'à Québec, une transmission aussi qui est par les textes législatifs, mais aussi les grands textes de loi, finalement, l'acte constitutionnel, entre autres. Mm-hmm. Et donc, est-ce que Joseph Bouchette, comment ça, en fait, ça se traduit sur le territoire, sur le terrain? Joseph Bouchette se promène à travers la vallée du Saint-Laurent pour justement cartographier, prendre le pouls. Comment ça, concrètement, comment ça s'opère?
Oui, donc l'acte constitutionnel, par exemple, je suis assez certain que Bouchette a dû le lire lui-même, mais donc ça se transmet à Bouchette par ses supérieurs, donc lieutenant-gouverneur et gouverneur, comme je viens de l'expliquer.
Oui.
Il peut y avoir aussi des juges qui vont, et là c'est un autre volet de son travail, mais des juges, si un conflit foncier entre deux propriétaires, entre deux seigneurs, par exemple, parce que leurs seigneuries sont mal mesurées. Et donc le juge peut demander à ce que l'arpenteur général fasse des nouvelles mesures pour régler là, ces conflits fonciers-là. Ça, c'est une autre façon. Mais essentiellement, c'est les autorités dans la colonie qui vont dire à Bouchette, « Bon, écoute, on a besoin, par exemple, on va ouvrir des nouveaux cantons dans les Laurentides et on va dire, on a besoin d'informations là, sur la qualité des sols, sur le genre d'essence d'arbres qui s'y trouvent, sur où on devrait mettre des ponts, où on devrait faire des routes pour que ça coûte le moins cher, pour que ça soit le plus efficace pour développer le territoire. Pardon. Et donc, Bouchette, lui, suite à cette commande-là, va aller là, concrètement mener ces travaux-là. Et lui-même, Bouchette, donc, est responsable du bureau de l'arpenteur général.
Oui.
C'est le bureau qui est à Québec. Et c'est aussi un pôle là, pour garder de la documentation, des cartes, des plans.
Mm-hmm.
Et il y a des gens qui travaillent là pour dessiner, là, qui vont tracer les cartes selon, par exemple, quand on se promène sur le territoire, on va faire des relevés, là, on pourrait dire des sketchs. Et avec ces infos-là, et on note aussi les distances qu'on parcourt dans un carnet. Et donc, une fois quand on retourne à Québec, souvent, ils vont faire des plans et des cartes au propre. Et donc, Bouchette, lui, est responsable de toutes les activités qu'on fait au bureau. Et lui-même va aller faire des travaux importants, par exemple mesurer des nouveaux cantons ou aller explorer divers endroits du pays. Mais Bouchette lui-même va déléguer à d'autres arpenteurs qui travaillent au bureau pour lui et il va coordonner les travaux d'arpentage, un rôle de directeur, si on veut, dans ce domaine-là.
Mmh.
Donc Bouchette reçoit, Bouchette transmet et Bouchette lui-même agit là, concrètement sur le territoire. Il va faire de nombreux voyages à pied, souvent tout au long de sa carrière, il va marcher des milles et des milles à travers l'arrière-pays, à travers les forêts. Il faut comprendre que, je l'ai déjà évoqué, mais disons jusqu'à une dizaine de kilomètres à partir du fleuve jusqu'à l'intérieur des terres, souvent on a des anciennes seigneuries qui existent.
Mm-hmm.
Mais quand on va plus loin vers l'intérieur des terres, là, c'est moins exploité, c'est moins développé. C'est vraiment dans cet espace-là que Bouchette travaille davantage.
Oui, dans notre vision d'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile de s'imaginer ce territoire rempli d'arbres neufs dans des régions qui aujourd'hui sont très développées. Alors mm-hmm. effectivement, il faut avoir ça en tête que le territoire était différent finalement à l'époque de Bouchette. Et peut-être une question qui me vient un peu spontanée, puis je pense que j'avais également eu ce questionnement-là peut-être en lisant ton ouvrage, mais sur quelle documentation Joseph Bouchette se base-t-il pour faire ses travaux? Par exemple, son relevé topographique de 1815 ou de 1831, c'est une somme d'informations monumentales sur le territoire, sur les ressources, sur les habitants. Est-ce qu'il y a recours à des archives seigneuriales, des archives de notaires? Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, certainement. D'abord, juste préciser, on a mentionné au début de notre entrevue que bon, Bouchette était connu d'abord pour des grandes œuvres cartographiques et des descriptions topographiques du territoire.
Oui.
Et je peux préciser, il y a deux moments clés là-dedans. Donc, il va publier un livre et des cartes en 1815 qui sont les plus importantes à l'époque. Et il va récidiver en 1831 et il va republier là, cette fois un ensemble de livres, donc c'est une description topographique, comme en 1815, mais qui paraît en deux volumes, et à nouveau un ensemble de cartes. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment ces deux publications-là qui font que Bouchette est encore connu et étudié aujourd'hui.
Oui, oui.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet de faire deux lectures, finalement, de développement du territoire, une en 1815 et une en 1831. Donc, ça, c'est super intéressant. Et comme j'avais évoqué aussi rapidement, il va à Londres aussi là, pour faire imprimer ces travaux-là. Donc, c'est pas juste un agent de l'Empire parce qu'il travaille pour la Couronne britannique au Canada. Lui-même circule finalement dans cet empire-là. Et d'ailleurs, en 1815, il va déposer figurativement son œuvre au pied du trône, c'est ce qu'il écrit dans son livre. Mais en 1831, il va littéralement là, remettre en main propre son ouvrage à la Couronne britannique là, à Londres. Il va même rencontrer la future Reine Victoria, qui est alors âgé de 13 ou 14 ans. Là, ça marque Bouchette, c'est son fils qui l'accompagne pour ça.
Ah, oui.
Mais donc, pour faire ces deux grandes œuvres-là, il va s'appuyer, bon, d'abord sur des travaux qui ont déjà été faits, parce que Bouchette ne part pas de zéro. Hein.
Oui, c'est
il va se baser sur des cartes qui ont été faites sous le régime français, des cartes qui vont avoir été faites à l'époque de Holland, au début du régime britannique. Il va se baser effectivement sur des plans qui ont été faits, des seigneuries, mais ça cause problème parce qu'il se rend compte, et c'est un souci tout au long de sa carrière, il se rend compte que les seigneuries ont beaucoup de problèmes dans les mesures, il y a beaucoup d'erreurs, et il va notamment envoyer des lettres à plein de seigneurs pour leur demander de faire réarpenter leurs terres pour qu'on essaie de corriger tout ça, là. Parce que ça peut causer des graves problèmes,
oui.
Des graves conflits fonciers, et parfois quand on veut passer une route, ben là on se rend compte qu'on passe sur une seigneurie qui était sur la carte, ça semblait pas être le cas, donc ça a permis toutes sortes de complications.
Okay.
Mais il va envoyer des lettres aussi à des seigneurs pour que les seigneurs viennent le voir et qu'ils l'informent sur l'état de leur seigneurie. Il va aussi écrire dans les journaux qui sont publiés, par exemple, dans les nouveaux cantons, pour dire aux gens, à telle date je vais passer, j'aimerais vous rencontrer pour que vous donniez des informations sur l'état du pays. Donc, par exemple, c'est quoi le... approximativement, c'est quoi le pourcentage qui a été défriché?
Oui.
C'est quoi le bétail? Quel type de bétail vous élevez dans dans votre zone, etc. Donc, je veux vraiment rencontrer les gens pour aller chercher de l'information. Ensuite, c'est ses propres informations, comme j'avais dit. Lui-même va faire plusieurs voyages, là, si on veut, de reconnaissance du territoire, du pays, et il va leur prendre beaucoup de choses en note, et ça va aussi lui permettre de faire ses œuvres de description.
Je serais curieuse, moi, ayant travaillé sur les papiers terriers du régime français, mais aussi du régime britannique, donc je serais curieuse de savoir si Bouchette a utilisé des papiers terriers pour réaliser ses enquêtes, mais quoi qu'il en soit, c'est monumental comme travail vraiment d'enquête là, sur le territoire avec les habitants, le démarchage auprès des seigneurs, c'est gigantesque finalement comme travail.
Oui. Oui, alors qu'il faut se déplacer à pied, il faut utiliser souvent des différents types d'embarcations. Là, il parle des bacs, là, qui sont des genres de ferries à l'époque. Évidemment, il n'y a pas de voiture. Hein, il y a des chemins carrossables, mais son fils va notamment noter que c'est pas tout le temps de qualité. Il faut souvent aussi, quand il va aller faire des explorations en vue d'ouvrir des espaces qui sont pas du tout développés, et ils vont faire vraiment des camps de base là, pour mesurer un canton qu'on veut éventuellement installer. Donc, ils vont passer parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines là, dans la nature, vraiment comme en camping sauvage, pour effectuer leurs travaux là, de reconnaissance et de mesure.
Fait que ça n'était pas que luxe, cette profession d'arpenteur.
Définitivement pas, non.
Alors, dans ton ouvrage, je présente un Bouchette agent de la couronne britannique, donc pour l'appropriation et l'exploitation du territoire bas-canadien. C'est un travail d'agent qui est divisé, selon ton étude, en deux grandes fonctions. D'abord, une fonction technique qui relève de la charge, de la charge légale de l'arpenteur. Et puis une fonction plus pratique, voire intellectuelle, pour la constitution de savoirs très, très précis, on l'a mentionné, sur le territoire. Donc, tu as déjà lancé pas mal d'informations au sujet de son rôle d'agent de la couronne britannique. Mais qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là que tu utilises dans ton œuvre? Et peut-être à titre de contexte, à quoi ressemblait la fonction publique à cette époque-là, au début du 19e siècle?
Donc, on qualifie vraiment les gens là, qui travaillent pour l'Empire dans l'administration. On va dire que c'est les bureaucrates. On va avoir, par exemple, des juges qui sont importants. On va avoir maîtres de port aussi, qui sont des personnes vraiment qui ont des rôles clés. Et Bouchette, en tant qu'arpenteur général, là, vraiment un poste dans la haute fonction publique, on pourrait dire, à l'époque.
Oui.
Et d'ailleurs, là, à la fin de la période, on va avoir le Parti patriote qui prend la place. Hein, on arrive... au moment où il va y avoir les rébellions patriotes. Et Bouchette, parce qu'il est francophone quand même, hein, c'est un catholique francophone qui travaille pour la couronne britannique, il va s'attirer bien des critiques de ses compatriotes, disons. Et donc, lui, il appartient vraiment à la bureaucratie impériale. Et donc, le volet charge légale, c'est vraiment la partie qui est homologation du territoire par rapport vraiment là, comme au lot, au terrain que les gens possèdent. C'est la fonction que les arpenteurs géomètres d'aujourd'hui font toujours, c'est-à-dire aller mesurer les propriétés privées des gens. Tout ça est fait en respect de lois qui encadrent ces activités-là. Et donc, c'est vraiment pour faire fonctionner le système de propriété foncière. Là.
Mm-hmm.
Donc, et il faut qu'on s'assure que les mesures soient faites avec les bons instruments, que les instruments soient bien calibrés, que les mesures sont faites de la bonne façon. Tout est fait sous serment aussi. Bouchette a prêté serment, les arpenteurs qui travaillent pour lui prêtent serment, même les gens, il y a les chaîneurs, c'est des gens qui déploient les chaînes de mesure entre les piquets d'arpenteurs pour relever les mesures sur le territoire, même eux doivent prêter serment. Donc, vraiment, la charge légale est très importante de ça. Et le deuxième volet, c'est ce que j'expliquais, quand il va explorer le pays, finalement, les zones sont moins développées et tout, et bien là, il va récolter des informations pratiques pour les autorités dans leurs objectifs qu'on a déjà évoqués, là, d'exploiter davantage de ressources et d'étendre l'aire colonisée, l'aire agricole de la colonie. Donc, c'est vraiment deux rôles importants. Et à son projet, comme je disais tantôt, hein, son rôle de coordonnateur, là, finalement, vraiment de directeur des activités d'arpenteur général.
On est déjà rendu à la dernière partie de notre émission. Ça passe vraiment vite, en bonne compagnie. Alors, la carrière de Bouchette, la fin de la carrière de Bouchette est un peu tumultueuse. Donc, tu as parlé des rébellions, donc il s'attire plusieurs critiques. Donc, ça commence à être vraiment difficile à naviguer à partir de 1830, justement. Sur le plan personnel et professionnel, comment donc se déroulent ses dernières années de vie avant son décès en 1841? Parce que là, il n'est plus arpenteur. En fait, son poste d'arpenteur... lui est retiré en 1840 et il meurt un an plus tard. C'est ce que je comprends.
Oui, exact. Là, donc, je me rappelle plus s'il lui est retiré ou si c'est Bouchette qui lui-même dit « c'est assez, je prends ma retraite » parce qu'il commence à être âgé pour l'époque, là, puis il est plus fragile et tout. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un bureau qui s'appelle le Bureau des terres de la Couronne qui gère de plus en plus, justement, l'octroi de l'eau à des colons. Et en fait, ce bureau-là, après la carrière de Bouchette, va absorber le bureau de l'arpenteur général.
Ah.
Et donc, Bouchette a certains conflits là, à la fin de sa carrière par rapport à ça. Et donc, parenthèse d'ailleurs, Bouchette, là, comme l'était Holland avant lui, c'est vraiment comme... il y a un rôle là, très large qui se limite pas juste à aller mesurer les propriétés. C'est vraiment, là, comme on a dit plusieurs fois, un genre d'explorateur. Il apporte toutes sortes de connaissances. Là. Quand on veut, par exemple, ouvrir une nouvelle voie navigable, on va faire appel à Bouchette. Quand on a des questions par rapport à la frontière, soit entre le bas et le Haut-Canada ou même avec les États-Unis, on va faire appel à Bouchette. Vraiment, là, il emmène très large Bouchette. Et ça, après sa carrière, on ne reverra plus ça. Les arpenteurs vont de plus en plus se concentrer vraiment là, uniquement sur le travail de mesure des propriétés, là, finalement.
OK.
Et moins le rôle comme d'explorateur et de personne qui va récolter un savoir pratique,
oui,
par exemple, sur la qualité des sols et tout, mais ça disparaît d'une certaine façon. Là.
Et
donc,
oui,
il y a ça.
Oui,
je pourrais rebondir sur la question des rébellions patriotes. Et bien, il y a une petite anecdote là, quand même croustillante, c'est que l'un de ses fils, en fait, donc Bouchette, je disais, est un bureaucrate et sans aucun doute... un grand promoteur de la couronne britannique,
oui,
et donc naturellement opposé aux patriotes. Et par malheur pour lui, l'un de ses fils va s'associer aux patriotes, va faire partie des rebelles des années 1837-1838, et il va être exilé, ce fils de Bouchette, aux Bermudes. Et donc, quand il va revenir, son père va être décédé, malheureusement. Et donc, cet agent, ce grand loyal de l'Empire britannique, va avoir un de ses fils là, qui participe aux rébellions et qui est exilé là, à la fin de sa carrière. Donc, certainement, ça n'a pas été de tout repos, là, ces événements-là, pour
Bouchette. Et il me semble que ce fils, c'est celui qui porte le nom de Shore Miles, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lui à qui on a donné le nom de son... c'était quoi? C'était un gouverneur?
Oui, c'était le lieutenant-gouverneur, donc je crois que oui.
Oui, mais ça que oui.
Parce que Bouchette a plusieurs fils, et c'est un peu mêlant parce qu'un de ses fils s'appelle Joseph Bouchette.
Ah oui?
Donc, il faut faire quand même... Puis en plus, il travaille, parce qu'il va y avoir des fils qui... Certains de ses fils vont devenir avocats, d'autres vont mener des carrières, eux aussi, dans le domaine de l'arpentage. Et il y a même un de ses fils qui va rester le responsable de l'arpenteur après. Il ne sera pas arpenteur général, parce que, comme j'ai dit, la fonction change. Mais il va être celui quand même qui va gérer les activités de l'arpenteur. Et donc, là, j'hésite si c'est Josiane Bouchard Junior ou Robert Shore Miles Junior. Donc, un des deux, il faudrait vérifier, là, mais c'est un de ses fils qui est très impliqué avec lui quand même. Là, et même, il va faire un. En fouillant pour trouver les cartes de Bouchette, justement, quand je faisais mes recherches, je suis tombé sur un croquis de ce fils-là qui est arrêté et exilé. Il fait un croquis là, de sa cellule à Montréal là, avant d'être exilé.
Ah, bien, c'est ça. C'est qu'on voit à travers ces œuvres-là, ce type d'œuvres-là, notamment les croquis, les dessins, une sorte d'aspect plutôt familial, sentimental. De la vie de ces personnes-là qu'on peut étudier finalement à travers des archives des fois un peu sèches. Alors, ça doit être une pépite que tu as apprécié trouver dans ton travail en archives.
Oui, certainement. Eh bien, il y avait justement un des documents, c'est un mémoire de son fils qui relate sa vie à lui, mais qui parle de son père par la bande et qui nous donne toutes sortes d'informations là, sur Bouchette et informations qui sont d'ailleurs corroborées par toutes sortes d'autres sources. Là. Donc, c'est un document super intéressant que j'avais à analyser.
Et j'imagine qu'on peut retrouver tout ça dans ton ouvrage.
Oui.
Toutes ces informations et ces références aux documents dont on parle en ce moment. Peut-être dernière question, ou en fait peut-être avant-dernière question parce que j'en ai une autre un peu plus spontanée encore une fois. Est-ce que Bouchette avait une reconnaissance quand même importante ou c'était, bon, puisque c'était un travail quand même un peu manuel, il était regardé de haut par d'autres hauts fonctionnaires?
Il y a un historien... Serge Boudreau, qui a étudié Bouchette, qui était avant mes travaux, là, qui était vraiment la source principale d'informations sur Bouchette, qui souligne que oui, il y avait effectivement certains enjeux par rapport à ça, pas seulement juste à cause de sa fonction, mais aussi parce que c'est un francophone catholique hein, dans une administration qui était vastement majoritaire anglo-protestante. Et donc ça, apparemment, ça a causé certains tumultes dans sa vie. Et aussi, Bouchette veut mener un train de vie qui correspond à cette élite de bureaucrates-là. Et il va avoir des problèmes financiers plusieurs fois dans sa vie. Donc, un bon salaire quand même. Bouchette est bien payé, mais apparemment, il mène un train de vie trop élevé. Et il va, à certains moments, falloir qu'il vende des terrains. Il va être là, il apparaît, il y a des juges qui demandent à ce qu'il passe en cours pour régler des sommes impayées, par exemple, à un... quelqu'un qui fait des vêtements. Certainement, il essaie de suivre cette élite britannique-là et ça semble assez difficile. Cela dit, il y a plusieurs amis britanniques, des avocats, des grands propriétaires terriens. Bouchette, quand même, là, n'est pas mis vraiment... En tout cas, moi, de mes recherches, j'ai pas vu un Bouchette qui était mis de côté là, par cette élite-là. Il se fait même donner des terrains là, par quelqu'un à un certain moment. Donc,
peut-être que son influence, finalement, a diminué avec le temps, qui est après un certain moment. Bon, ça, les gens aussi ont changé hein, dans la fonction, j'imagine, dans la haute fonction publique et dans la sphère législative. Donc, à ce moment-là, peut-être que, effectivement, son influence diminue ou varie en fonction des périodes que l'on étudie. Alors, alors peut-être, dernière question, mais très rapide, en fait, un peu pour inciter les gens à se procurer ton ouvrage. Selon toi, comment ton étude permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'État colonial dans la première moitié du 19e siècle?
Bien, c'est grâce au fait que c'est concentré autour d'un personnage. D'abord, un personnage, ça fait que c'est dynamique, hein, parce que j'ai quand même intégré un peu d'anecdotes. Par exemple, ce que je disais avec la reine Victoria, mais il y en a d'autres. Un peu de récits de vie, finalement, qui permettent de dynamiser un peu l'étude. Et ce personnage-là, par sa fonction, comme je l'ai expliqué, ça nous permet de voir du rouage administratif, par exemple, avec les règles qui encadrent la pratique de l'arpentage, avec ses rapports avec les autorités impériales comme le gouverneur. Et après, lui, en étant un directeur, hein, en étant un coordonnateur, on voit à un autre niveau comment fonctionne l'État, comment se révèle finalement, comment fonctionne l'action de l'État sur le territoire de façon très concrète. Oui. Parce que Bouchette va envoyer des instructions manuscrites aux arpenteurs dans lesquelles il va dire, bon, ben, vous devez aller à telle source de telle rivière, vous allez la descendre par telle direction, je veux que vous notiez les essences d'arbres, je veux que vous remarquiez s'il y a des marécages, ça devrait vous prendre tant de temps. Il est très, très, très précis. Il va même leur dire, vous devez apporter tel type de de nourriture là, pendant votre expédition. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une fenêtre là, sur le travail concret sur le territoire. Et ça nous permet aussi de toucher un peu de politique, hein, comme on vient juste de discuter, par rapport aux gens qui vont s'opposer à l'Empire à la fin du premier tiers du 19e siècle. Et Bouchette, dans ses œuvres aussi, c'est pas juste la description du territoire, c'est aussi, il va se permettre de donner son avis sur le Bas-Canada, sur l'Empire. Je disais, par exemple, qu'il voudrait qu'il y ait plus de protectionnisme encore assuré par la couronne, mais il va donner aussi, il va se comparer l'Empire britannique à l'Empire romain. Il va vraiment, là, il va se permettre des petites réflexions qui nous permettent d'avoir la vision d'un bureaucrate qui travaille pour la couronne à cette époque-là. Tout ça, comme je disais, en suivant le récit d'une vie, finalement, d'une carrière, que je crois est assez intéressant.
Oui. Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Merci beaucoup à mon invité, Jérémy Lévesque-Saint-Louis. C'était vraiment un plaisir de te recevoir à l'émission. Tu es un excellent communicateur. C'était vraiment une émission très stimulante.
Et merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi.
Bien, merci beaucoup. Et j'invite et j'incite même ceux et celles que ça intéresse à se procurer ton bel ouvrage publié aux Presses de l'Université Laval en 2023, donc disponible sur le site Internet et sans doute dans de nombreuses librairies. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle va être disponible en balado-diffusion sur le site de Chiz, ainsi qu'éventuellement sur les plateformes d'écoute numérique Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Pour terminer, nous allons nous quitter cette fois-ci.